Dynamique Radio. Dynamique, premier sur le web.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est la Libre Antenne et on est bientôt en fin d'émission. Pour cette fin d'émission, Jane va nous proposer une lecture.
Et oui, je vais vous transporter dans les contes de Mémé Lubrique de Étienne Liebig et plus particulièrement sur Barbe Bleue et Bite en Bois.
Eh bien, on t'écoute pour Barbe Bleue et Bite en Bois sur Dynamique Radio.
Installez-vous dans votre lit, dans votre canapé. Et écoutez-moi, il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue et la bite dure comme du bois. Cela le rendait si laid et si dangereux qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui en se protégeant les deux trous. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point, toutes deux, et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui ait eu la barbe bleue et la bite en bois. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire reconnaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenades, partous et parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que fellations, cunilingus, sodomie, baises à tous les étages. On ne dormait point. Et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue, ni la queue si dure, bien qu'elle eût le con et le cul parfaitement détruits par l'engin du bonhomme. Elle se laissa séduire au 67e orgasme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fît venir ses bonnes amies, qu'elle les menât à la campagne si elle voulait, que partout, elle fît bonne chère. Elle ne voyait pas d'un mauvais œil de pouvoir se reposer le fion qu'elle avait de la taille d'une belle jument maintenant. « Voilà, lui dit-il, les clés des deux grands garde-meubles. Voilà celles de la vaisselle d'or et des godemichets d'argent qui ne servent pas tous les jours. Voilà celles de mes coffres-forts où sont mon or et mon argent, celles des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout. Allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassé et enfourné une dernière fois, monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison. N'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, où elle ne pouvait assez admirer le monde et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on ne voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dans les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles regardèrent longtemps le reflet de leurs énormes fesses qu'elles écartaient en riant. Certaines restaient allongées, cuisses largement ouvertes devant les miroirs, et se caressaient pour mieux admirer leurs nymphes écarlates. Il était rarissime à l'époque de posséder des glaces de cette dimension. Elles voulaient tout en profiter et jouir de leur insolente beauté. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur ami, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la supporter ni la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sperme et de mouille caillée, et que dans ce foutre se miraient les corps de plusieurs femmes mortes en position d'orgasme, la bouche ouverte, les yeux révulsés, la chatte béante, le cul offert. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qui étaient mortes de plaisir l'une après l'autre. Elle pensa mourir d'horreur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Plusieurs fois, elle dut se tripoter la moniche avant de retrouver son calme. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sperme et de mouille, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le foutre ne s'en allait pas. Elle eut beau le laver et même la frotter avec du savon et du sablon et avec du grain, elle y demeura toujours du foutre, car la clé était fée et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sperme d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe Bleue revint de son voyage dès le soir même. Elle dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ?» Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. Ne manquez pas, dit la Barbe Bleue, de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme : Pourquoi y a-t-il du sperme et de la mouille sur cette clé ?
Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort.
Vous n'en savez rien ? Reprit Barbe Bleue, je le sais bien, moi, vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Baisez-moi jusqu'à l'os, fourrez-moi comme une dinde, cassez-moi les pattes de derrière. Déchirez-moi le moule à cigare, mais je vous en supplie, mon bon maître, laissez-moi la vie sauve et je vous sucerai jusqu'à votre mort.
Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était, mais Barbe Bleue, bite en bois, avait le cœur plus dur qu'un rocher.
Il faut mourir en jouissant, madame, lui dit-il, et tout à l'heure. Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu et me préparer la chagate.
« Je vous donne un quart d'heure, » reprit Barbe Bleue, bite en bois, « mais pas un moment davantage. »
Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne !»
car elle s'appelait ainsi.
« Monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. »
La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps « Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie et mon doigt qui me branloie. » Cependant, Barbe Bleue, bite en bois, tenant un grand goût de michet à sa main, criait de toute sa forme à sa femme « Descends vite, ou je monterai là-haut » « Encore un moment, s'il vous plaît !» lui répondait sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie, mon doigt qui me branloie et mon con qui mouloie. »« Descends donc vite !» criait Barbe Bleue, bite en bois, « où je monterai là-haut » « Je m'en vais, » répondait sa femme. Et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères ?»« Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait Barbe Bleue, bite en bois. « Encore un moment, » répondait sa femme, et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci. » Mais ils sont bien loin encore. Oh, Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après. Ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. Barbe Bleue, bite en bois, se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. Sa pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout apeurée, tout échevelée. Cela ne sert de rien, dit le géant, la queue en l'air. Il faut mourir de plaisir. Elle se mit sur les genoux, le cul en majesté, de façon à offrir ses deux orifices à son mari. Il allait la fourrer. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se préparer l'anus. « Non, non, dit-il, tu vas la prendre à sec !» Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que Barbe Bleue, bite en bois, s'arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit au monstre. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que Barbe Bleue n'avait point de frères et qu'elle ne trouva jamais personne montée comme l'était son mari. Elle dut se satisfaire avec des substituts d'ivoire, mais elle demeura maîtresse de tous les biens. Elle en employa une grande partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie a acheté des charges de capitaine à ses deux frères. Elle put aussi se payer des dizaines d'amants et resta jeune éternellement, prouvant au monde que l'orgasme est le secret du bonheur et de la longévité. Moralité : la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être et toujours il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux, si terrible et si bien monté. Et l'on doit, pour se faire bien enculer, trouver moult bites en bois et sexe en acier. Voilà, sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.
Bonsoir à toutes et à tous.
Merci. Alors moi, je voudrais faire un petit mot de la fin. L'auteur s'appelle Étienne Liebig. Et ben, il est habitué à la bonne soupe, ce Liebig.
Ah. Ouais.
Merci, au revoir, bonne nuit.
Oh là là.
Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.